Europe Midi, Sébastien Krebs.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner pour cette Europe Midi. Soyez les bienvenus, c'est parti pour une demi-heure d'infos, il est midi et demi.
C'était des scènes cauchemardesques quoi, qui vont nous marquer. Donc déjà l'air était effectivement irrespirable, on était vraiment dans un nuage.
Nuit d'angoisse dans le Var, des milliers d'habitants et vacanciers ont dû fuir leur maison ou leur camping dans l'urgence alors qu'un gigantesque incendie attisé par des vents forts a parcouru des milliers d'hectares dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, 3500 hectares partis en fumée. Ce feu n'est toujours pas fixé, témoignage et point complet dès le début du journal. Et invité d'Europe Midi, le maire de la commune de La Molle dans le massif des Maures, Stéphane Gady, ainsi que le colonel des sapeurs-pompiers Pierre Chalère. Dans l'actualité aussi, les premiers rapatriements d'Afghanistan vers la France. Un premier avion transportant une quarantaine de Français est attendu à Roissy cet après-midi. En France, c'est la question de l'immigration et la crainte d'un exode des Afghans qui cristallise le débat politique. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir d'aujourd'hui à environ 3 millions de familles modestes. Le mode d'emploi à suivre, nous irons à l'hôpital de Mulhouse en grève contre l'obligation vaccinale des soignants. Et puis à Paris, l'Arc de Triomphe est en train d'être empaqueté pour réaliser le projet de l'artiste Christo. Et vous verrez que ça ne plaît pas beaucoup aux touristes de passage, ça gâche un peu la vue. La météo, ensoleillée autour de la Méditerranée, plus mitigée sur le reste du pays. On surveille bien sûr le vent qui attise les incendies. Mistral et Tramontane vont continuer de souffler fort, nous dira Valérie Darmon. Météo complète dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vu d'avion, c'est déjà un nuage de fumée extrêmement impressionnant qui a envahi le ciel du Var, l'arrière-pays, le massif des Maures, jusqu'à la mer au niveau de Cavalaire et du golfe de Saint-Tropez. Le ciel bleu de la Côte d'Azur est embué. L'incendie a déjà ravagé 3500 hectares, dont un camping. On va faire un point complet. Tout le secteur reste en alerte avec des centaines de pompiers à pied d'œuvre. D'abord, ce témoignage des milliers d'habitants et de vacanciers qui ont dû évacuer en pleine nuit, dont Marjorie. Elle est en vacances avec sa famille dans une maison sur les hauteurs de la Croix-Valmer.
C'était cauchemardesques quoi, qui vont nous rester marqués. Donc déjà, l'air était effectivement irrespirable. Donc on avait vraiment toute la fumée. Là, nous, on était vraiment dans un nuage. On avait de la cendre, etc. Et en plus, on voyait le ciel qui rougissait derrière nous. Au bout d'un moment, on prend la décision de s'en aller et de descendre, juste descendre, d'aller vers la mer, quoi. Donc on est descendu en voiture avec les enfants à 3h du matin. Par la suite, on est rentré vers 4h 4h30 du matin. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de fumée.
Et là, aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez encore peur?
Je vois quand même qu'il y a moins de fumée, bien que ça sente encore la fumée, mais qu'elle est plutôt blanche. Donc, c'est beaucoup moins impressionnant qu'hier où la fumée était très épaisse, etc. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on descendra encore.
Bonjour Diane Berger. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour Europe 1. Quelle est la situation à la mi-journée, que vous disent les autorités?
Alors, l'incendie est toujours en cours et il est difficile de le maîtriser à cause du vent qui s'est relevé ce matin après quelques heures d'accalmie. Mais la situation est un peu mieux contrôlée qu'hier. Les habitants et les touristes évacués cette nuit ont pu regagner leur lieu de résidence. Ils étaient plus de 1000 à devoir quitter leur logement ou leur camping en urgence à la Croix-Valmer. 2000 à Cavalaire. Philippe Leonelli, le maire, raconte une nuit d'enfer.
On est tous partis dans nos quartiers, aller prévenir avec des haut-parleurs, taper aux portes des personnes. Et puis, et dans Cavalaire et un peu partout, on commence à voir arriver beaucoup, beaucoup de monde, comme l'exode, hein, dans les voitures. On avait mis des personnes pour pouvoir guider, pour que les gens se garent proprement. Et puis, sur les parkings au plus près de la mer, les gens sont venus se poser là.
Pour l'instant, aucun mort n'est à déplorer, mais une vingtaine de personnes ont été intoxiquées par les fumées et 6 pompiers sont blessés, car ce feu est particulièrement dangereux, explique le commandant Olivier Pécaud, pompier dans le Var.
Avec donc la sécheresse, les fortes températures et le vent de 80 km/h en rafale, nous avons constaté des vitesses de propagation de 4000 m/h avec des sautes de feu en amont du feu qui étaient de l'ordre de 300, 400, voire 500 mètres qui faisaient de nouveaux petits départs devant le feu qui accélérait sa vitesse.
Alors face à la menace encore présente aujourd'hui, le commandant le répète, suivez les consignes des pompiers et des préfectures, évacuez seulement si elles vous l'ordonnent car partir sans leur accord, c'est vous mettre en en danger, vous pourriez vous retrouver coincé sur une route encerclée par les flammes.
La priorité à l'accès, bien sûr, aux pompiers et notamment cet appel à ne pas circuler entre Bormes-les-Mimosas et Saint-Tropez. Merci Diane Berger. Nous y revenons juste après le journal avec mes invités. Nous serons en ligne avec le maire de la commune de La Mole. C'est dans ce massif des morts, Stéphane Gady, et avec également le colonel des pompiers, Pierre Chalère, qui sera mon invité. Les rapatriements ont commencé depuis l'Afghanistan. 45 ressortissants français sont attendus à Roissy cet après-midi. Un Airbus a décollé depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, cette base française qui va servir de point de transit et où un premier avion en provenance de Kaboul est arrivé ce matin. La ministre des Armées, Florence Parly, évoque la mise en place d'un pont aérien. Un détachement des forces spéciales françaises est arrivé à Kaboul pour contribuer à sécuriser les embarquements. Les talibans, eux, annoncent une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. C'est la déclaration principale de ces dernières heures. Les talibans qui appellent les employés des administrations à reprendre le travail en confiance, alors que beaucoup craignent pour leur sécurité. La possibilité d'un exode massif des Afghans fait craindre en Europe une nouvelle crise migratoire. Emmanuel Macron, à 20h hier soir, a souhaité une réponse européenne coordonnée.
L'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous porterons donc, en lien avec la République fédérale d'Allemagne et avec d'autres États européens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie, qui passera par la lutte contre les flux irréguliers, la solidarité dans l'effort, l'harmonisation des critères de protection et la mise en place de coopération avec les pays de transit et d'accueil, comme le Pakistan, la Turquie ou l'Iran.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1. Cette question de l'immigration, c'est celle qui alimente le plus le débat depuis hier soir.
Oui, notamment à gauche, avec des responsables politiques indignés. Les écologistes qui s'apprêtent à faire leur rentrée, et cela n'est pas anodin, montent particulièrement au créneau. Yannick Jadot, candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, se dit sidéré d'écouter le président déclarer que les femmes, les hommes, les enfants qui fuient l'enfer des talibans sont d'abord une menace avant d'être des victimes et potentiellement des réfugiés. Même indignation du côté de la France insoumise. Quant au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, il estime que la maîtrise des flux migratoires, ce n'est pas la priorité.
Pour moi, le premier réflexe, ce n'est pas de chercher à contrôler les flux migratoires. Bien sûr qu'il faut contrôler les flux illégaux. Mais ce qu'il faut, c'est assurer la protection de toutes ces femmes et tous ces hommes qui relèvent aujourd'hui du droit d'asile parce qu'ils risquent la persécution dans leur propre pays.
Face à ce début de polémique, le président s'est fendu hier soir d'un tweet pour préciser ses déclarations que certains veulent détourner, dit-il. La France continuera de protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Accueillir les réfugiés politiques, oui, a affirmé ce matin sur notre antenne Robert Ménard. Mais le maire de Béziers estime, comme d'autres responsables politiques d'extrême droite, que l'initiative européenne annoncée pour maîtriser l'immigration doit être strictement respectée.
J'espère qu'ils vont le faire. Ce serait bien pour l'Europe et ce serait bien pour la France. Donc j'applaudirai et je le souhaite de tout cœur. Mais je constate que M. Macron n'a jamais tenu ses promesses en termes de lutte contre l'immigration et l'Europe ne s'est jamais mis d'accord pour avoir les mêmes critères d'un pays à l'autre d'accueil de telle ou telle population.
Avant même la prise de parole du président hier soir, les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle, Xavier Bertrand et Marine Le Pen, s'étaient inquiétés de la question migratoire. L'allocution d'Emmanuel Macron est sans doute une manière de ne pas laisser le terrain à ses adversaires.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Une réunion des ministres des Affaires étrangères européens est prévue cet après-midi. Et puis il y a un pays qui tient un discours très différent sur cette prise du pouvoir par les talibans, c'est la Chine. Et on a choisi de s'y arrêter aujourd'hui avec vous, Sébastien Lebelzik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Pékin. Le régime chinois veut entretenir des relations amicales avec les talibans et ce n'est pas sans arrière-pensée parce que Pékin a évidemment des intérêts. Pékin profite du départ américain pour avancer ses pions.
Oui, et c'est très symbolique. La Chine n'a pas fermé son ambassade à Kaboul et tout cela d'ailleurs avait été anticipé par le gouvernement chinois. On se souvient de cette rencontre étonnante. C'était le 28 juillet dernier en Chine entre le mollah Abdul Ghani Baradar, numéro 2 des talibans, et Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. L'accord entre eux était clair. La Chine soutient le régime taliban, mais elle exige en retour qu'il coupe les ponts avec le mouvement islamiste du Turkestan oriental, une organisation séparatiste ouïghour qui a revendiqué plusieurs attentats en Chine. Sur Sur ce point, Pékin aurait obtenu des garanties et en échange, les talibans veulent que la Chine investisse davantage dans le pays. Écoutez, Roy Shuning, elle est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Les talibans veulent de bonnes relations avec la Chine, que nous participions à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan. La Chine a toujours respecté l'indépendance de l'Afghanistan, alors nous ne sommes jamais intervenus.
Sébastien Lebelzik, quels sont les projets d'investissement de la Chine en Afghanistan ?
Alors la Chine proposerait déjà de construire des routes dans les zones sous contrôle des talibans, ainsi qu'un certain nombre de projets énergétiques. Et puis la Chine voudrait surtout relancer ses projets miniers en demandant aux talibans d'assurer la sécurité. C'est le cas de la mine de cuivre de Meis Aynak, au sud-est de Kaboul. En 2007, la Chine avait payé 3,5 milliards de dollars, une concession de 30 ans pour exploiter la zone, mais elle n'avait pas pu le faire à cause de l'insécurité. D'autres exploitations pourraient voir le jour, car le sous-sol afghan recèle de minerais et de terres rares. En 2010, un rapport américain estimer leur valeur à près de 1 000 milliards de dollars, de quoi aiguiser bien des appétits.
Merci à vous Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Les suites du séisme en Haïti, le bilan s'est encore alourdi, plus de 1 400 morts et près de 7 000 blessés dans ce tremblement de terre qui a détruit des dizaines de milliers de maisons. Des dépouilles sont encore coincées dans les décombres et c'est maintenant une dépression tropicale, Grace, qui menace l'île alors que des milliers d'habitants ont dû s'installer sous des abris de fortune.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
Il est 12h41, Europe Midi continue avec le versement très attendu par de nombreuses familles en cette période de rentrée, l'allocation de rentrée scolaire versée à partir d'aujourd'hui à 3 millions de foyers. Les détails dans un instant, à tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Midi 43 sur Europe 1, Europe Midi continue. Et ça y est, on entre dans la période des achats de fournitures scolaires, des préparatifs du retour à l'école, avec le coût que cela représente pour les familles. Alors, pour les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui entre 370 et 404 euros. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour Sébastien.
Qui est concerné ?
Eh bien, tout le monde n'est pas concerné, hein, puisque l'allocation est versée sous condition de ressources. Alors, si vous avez un seul enfant, les ressources annuelles de la famille ne doivent pas dépasser 25 300 euros. Si vous avez deux enfants, le plafond est un peu plus élevé, 31 200 euros. Pour trois enfants, c'est 36 000 euros. Au total, 3 millions de familles vont percevoir cette année l'allocation de rentrée scolaire, dont le montant varie en fonction de l'âge de chaque enfant. 370 euros, c'est pour les moins de 10 ans. Entre 11 et 14 ans, c'est 390. Et entre 15 et 18, c'est 404 euros.
Alors, que doivent faire ces familles ? Quel est le mode opératoire ?
Eh bien, pour les familles dont les enfants ont entre 6 et 15 ans, c'est très simple, il n'y a rien à faire. Les caisses d'allocations familiales ont toutes les informations nécessaires et la somme est versée automatiquement par virement bancaire. Si vous avez des ados entre 16 et 18 ans, là, il faut avoir confirmé en ligne sur le site de la CAF qu'à la rentrée de septembre, ils seront toujours scolarisés, étudiants ou en apprentissage. Enfin, si vous avez des enfants de moins de 6 ans, des enfants qui ont pris un peu d'avance et qui vont entrer en CP dès cette année, eh bien, vous devez récupérer un certificat de scolarité auprès de son école et l'envoyer à la caisse d'allocation familiale.
Le mode d'emploi signé Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le nombre de malades du Covid hospitalisés est repassé au-delà de la barre symbolique des 10 000. Ce chiffre continue de progresser. 97 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. La tension sur l'hôpital ne retombe pas et pourtant certains personnels refusent encore l'obligation vaccinale qui a été imposée aux soignants, sans quoi leur contrat de travail pourra être suspendu. Ça ne passe pas, par exemple, à l'hôpital de Mulhouse, qui est en grève, établissement qui avait pourtant été submergé par les cas de Covid l'année dernière. Arthur Lembaché sur place.
Il y a ici à l'hôpital de Mulhouse environ 65% d'agents vaccinés, beaucoup plus chez les médecins, beaucoup moins chez les aides-soignants ou les agents d'entretien comme Nadia et Caroline, ulcérés, qu'on les force, disent-elles, à s'injecter un produit dans le corps.
J'appelle ça de la dictature, hein, parce qu'on ne demande pas aux gens soit tu te vaccines, soit tu n'as plus rien. Ça se dit pas, c'est pas humain.
On a le droit de faire ce qu'on veut de notre corps aussi, on a le droit de dire non au vaccin, quoi.
Parce qu'auparavant, on nous faisait venir positif au Covid aller bosser. Là, c'était normal. Et maintenant qu'il y a ce vaccin, on est considérés comme des hors-la-loi.
Le 15 septembre, date d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, date qui panique les équipes, dit Nathalie Veuctelin du syndicat UNSA.
On a interrogé nos adhérents, on a eu beaucoup, énormément d'appels de gens désespérés qui attendaient qu'on les soutienne, qui ne veulent pas se retrouver le couteau sous la gorge. C'est pas du tout un mouvement anti-vaccin. On respecte les gens qui ont fait le choix de se vacciner et les agents qui ont fait le choix de ne pas se faire injecter ce vaccin.
Commentaire d'un médecin chef de service vacciné, croisé dans un couloir de l'hôpital. C'est désolant à croire, dit-il, que les personnels ont oublié qu'ici, l'année dernière, on a vécu l'enfer. Mulhouse, Arthur Elmaché, Europe 1.
Aux États-Unis, on l'a appris cette nuit, Bob Dylan est accusé d'agression sexuelle. C'est un tribunal de New York qui engage des poursuites après la plainte d'une femme qui affirme que le chanteur l'a abusé à plusieurs reprises en 1965 alors qu'elle était mineure. Elle n'avait que 12 ans. Nous allons maintenant à Paris, sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, qui vont changer de visage pour un moment, le temps de réaliser le rêve de l'artiste bulgare Christo, décédé l'année dernière. Souvenez-vous, c'est lui qui avait emballé de tissu le Pont Neuf en 1985. Et bien, son projet de faire la même chose pour l'Arc de Triomphe est en train d'être réalisé. Le chantier a démarré en juin, il doit s'achever en septembre. Le problème, c'est que les échafaudages gâche un peu la vue aux touristes de passage cet été, ça ne leur plaît pas beaucoup. Reportage, Marion Gauthier.
Au point de vue photo, voilà, on ne peut pas dire que ce soit joli, joli.
Deux grues rouges s'invitent sur la perspective. Des échafaudages des deux côtés de l'arche et des treillages en bois autour des sculptures.
Bon, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas le temps de détailler tout le pourtour et la statuaire sur les pieds.
Ce couple revenu à Paris après 10 ans hors de la capitale vient de monter sur l'Arc de Triomphe pour profiter de la vue, à défaut d'apprécier l'architecture du monument.
Ceci dit, l'emballage de Christo doit être sûrement une très belle chose à voir, donc il faut bien passer par le côté échafaudage avant. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'échafaudages et autant de manutentions énormes.
On a pris des photos, malgré tout.
Cette famille de voyageurs pose à bonne distance et remet sa visite à plus tard.
On aurait bien voulu passer en dessous pour montrer la tombe du soldat inconnu aux filles. Là, il y a toutes les machines et donc du coup, la tombe du soldat inconnu, elle n'est pas accessible.
C'est une déception, mais bon, voilà, on voit. Je préfère le voir comme ça aujourd'hui, même s'il y a des échafaudages, mais je le vois. Emballé, empaqueté, non, c'est plus l'Arc de Triomphe.
Et pourtant, ce sera bien cette arche qui se devinera derrière plus de 20 000 mètres carrés de tissu argenté aux reflets bleutés. Cette arche imaginée par Christo qui chatoiera 2 semaines du 18 septembre au 3 octobre.
Marion Gauthier sur les Champs-Élysées à Paris. La météo avec vous, Valérie Darmon. Ensoleillé, mais toujours venté, hein, près de la Méditerranée et plus nuageux ailleurs.
Effectivement, Sébastien, les régions méditerranéennes qui bénéficient d'une belle journée, donc de soleil encore, avec des températures en baisse, plus de vigilance dans notre ciel, 28 à 32 en général, jusqu'à 33 ou 34 sur le Var. Mistral et Tramontane qui soufflent toujours assez fort dans leur domaine, entre 60 et 80 km/h en rafale, voire 90 en basse vallée du Rhône. Sur le reste de la France, le temps qui est plus mitigé, entre nuages et rares éclaircies par endroits, notamment au nord, et les maximales ailleurs, entre 21 et 25 degrés.
Merci à vous, Valérie Darmon.
Europe Midi, Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron se rendra cet après-midi sur les lieux de l'incendie qui ravage l'arrière-pays du Var. Il n'est pas loin au fort de Brégançon. Il rendra visite aux forces des pompiers avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nous revenons sur ces incendies sur place dans quelques secondes avec mon invité, le maire de la commune de La Mole, Stéphane Gadi, et le colonel Pierre Chalère des sapeurs-pompiers de France. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi. Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 12h50 et nous sommes dans le Var en direct avec le maire de l'une des communes touchées par les incendies qui font rage depuis hier soir, la commune de La Mole dans le massif des Morts. Bonjour Stéphane Gadi.
Bonjour.
Quelle est la situation à la mi-journée sur votre commune et dans les environs ?
Ben écoutez, actuellement le feu n'est pas encore maîtrisé. Donc, nous demeurons en état de vigilance extrême.
Il y a des dégâts sur votre commune ?
Ah oui, nous avons des dégâts absolument considérables. De nombreuses habitations ont été détruites par les flammes. Beaucoup de vignes également, des massifs forestiers. Non, c'est une vraie catastrophe.
Pas de victimes parmi les habitants qui avaient pu fuir à temps ?
Heureusement non, nous ne déplorons pour l'instant aucune victime, aucun disparu et à ma connaissance, 3 personnes blessées uniquement, selon les derniers éléments qui m'ont été communiqués.
Racontez-nous la nuit que vous avez vécue, parce que toutes ces évacuations dont on a parlé tout à l'heure se sont faites vraiment au cœur de la nuit. Vous avez vous-même oui. D'ailleurs publié une vidéo sur les réseaux sociaux extrêmement impressionnante, puisque vous étiez, vous disiez, encerclé par les flammes.
Exactement, ça a commencé à 20h où j'ai été contacté par une mère de famille qui était avec son enfant et son oncle enfermés dans leur habitation en plein cœur du massif des Morts, sur la commune de La Molle. Et donc, elle était effrayée puisqu'elle voyait le ciel rouge menacé au loin. Et donc, j'ai pris la décision avec mon comité communal des feux de forêt d'aller à la rencontre de ces gens-là pour les secourir. Et lorsque nous sommes arrivés, eh bien, le feu s'était propagé à une telle vitesse et d'une telle intensité qu'on s'est retrouvés littéralement encerclés. Et donc, je rends vraiment hommage à mon comité communal des feux de forêt parce qu'en dépit de ça, on est arrivé à sauver cette maison et faire en sorte que ses habitants soient sains et saufs, alors même que le feu était d'une telle intensité que les services de pompiers ne pouvaient pas accéder pour nous exfiltrer.
Où sont les habitants qui ont évacué est-ce qu'ils ont pu regagner leur domicile?
Alors pour l'instant, non. Les directives préfectorales sont très claires. Il est interdit à toute personne évacuée ou sinistrée de regagner son domicile. Pour la bonne et simple raison que le feu n'est pas encore maîtrisé et qu'on a besoin de garder les voies d'accès au seul et usage unique des services de secours.
Est-ce que les flammes se sont éloignées? Est-ce que votre commune est sauvée ou est-ce qu'il y a toujours ce risque que le feu revienne?
Alors nous sommes en présence de ce qu'on appelle un méta-incendie, hein, qu'on a déjà connu en 2003. D'ailleurs, il a emprunté exactement la même voie. Donc en matière de méta-incendie, les 48 heures qui suivent son déclenchement sont absolument cruciales en termes de traitement de reprise de feu.
C'est une zone qui, vous l'avez dit, a déjà été confrontée à de nombreux incendies. Est-ce que c'est un scénario auquel vous étiez préparé? Est-ce que tout était anticipé en cas d'alerte?
Alors, depuis plusieurs années, la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a fait un travail absolument remarquable en matière de pistes DFCI, de traitement des obligations légales de débroussaillement, auxquelles la population locale a été extrêmement sensibilisée. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir vécu hier soir, si les gens chez lesquels nous nous sommes déplacés n'avaient pas satisfait leurs obligations légales de débroussaillement, je ne serais peut-être pas en train de vous parler en ce moment.
Voilà l'importance de ces mesures de prévention. Monsieur le maire, restez avec nous. On est également en ligne avec le colonel, Pierre Chalère de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sapeur-pompier volontaire et expert dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez travaillé aussi pendant une vingtaine d'années dans ce département du Var où vous étiez commandant des opérations de secours. Vous connaissez donc parfaitement ce terrain du Massif des Morts. Qu'est-ce qui explique la difficulté à contenir ces flammes? C'est le scénario du pire, la chaleur, le vent?
Alors, je pense que Stéphane Gadi sera d'accord avec moi pour dire que malheureusement, les morts et le feu de forêt, c'est une vieille histoire. C'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire très ancienne qui date de quelques siècles. Et pour ce qui est du cas d'espèce de hier après-midi, on avait un cocktail extrêmement toxique qui était celui des 3 jours de canicule qui ont achevé de dessécher une végétation qui était déjà très vulnérable puisque les dernières pluies remontent à plusieurs semaines. Des températures extrêmement élevées, surtout dans la plaine des Morts, qui connaît très souvent des températures supérieures à 35 degrés. Un taux d'humidité extrêmement faible dans l'air, qui était inférieur à 20%, et ça c'est un critère très pénalisant. Et puis le vent, qui a fait que, à peine parti, ce feu en fait a pris une cinétique et une vitesse extrêmement grande.
Ça aurait pu être bien pire, disait le maire Stéphane Gadi de La Molle, parce que ce débroussaillage est extrêmement important, toutes ces mesures de prévention qui sont prises.
Bien sûr, j'apprécie vraiment ce qu'il a dit, parce que après le grand feu de 2003, où j'étais commandant d'opération de secours et où effectivement le trajet suivi par le feu entre la gare de Fresnay et La Molle et Cogolin, Grimaud a été assez comparable, il y a eu vraiment une très grosse prise de conscience après cette année terrible, notamment les prises de conscience des particuliers pour l'obligation légale de débroussaillement. C'est une aide dont nous ne pouvons pas nous passer. On ne peut pas faire de la défense des habitations, des lotissements, des campings, de tout ce qu'on appelle les points sensibles, si on n'a pas une aide des particuliers qui assurent leur obligation légale de débroussaillement. Et il faut tirer un coup de chapeau aux maires de toutes ces communes qui sont soumises aux dangers des feux de forêt tout le temps en été pour le travail de sensibilisation qu'ils peuvent faire.
Cet incendie, on parle donc de méta-incendie, frappe par sa vitesse de propagation avec, on le disait tout à l'heure, des flammes qui ont pu parfois sauter 500 mètres avec de nouveaux départs de feu. C'est le risque dans les heures qui viennent, si le vent va continuer, qu'il y ait de nouveaux départs de feu?
Alors, le risque à partir de ce matin, et malheureusement, je pense que c'est le cas en ce moment, puisqu'on signale une très grosse reprise au nord de la commune de la gare de Fresnay. Le risque, c'est qu'un incendie comme celui-là, qui fait une vingtaine de kilomètres de long, il crée sur sa périphérie 60 à 80 kilomètres de lisière qu'il faut traiter intégralement. Nos camarades des équipages des avions bombardiers d'eau font un boulot absolument exceptionnel, comme d'habitude, je dirais. Mais maintenant, il faut finir. Alors, c'est du travail ingrat, c'est du travail épuisant, à pied, et ça demande surtout des moyens considérables pour traiter cette soixantaine de kilomètres. Il faut absolument arriver à noyer et à nettoyer toutes ces lisières. Le risque de reprise, il est constant pendant encore 48, peut-être 72 heures, comme disait Stéphane Gady, réellement, la partie est loin d'être gagnée.
Merci à vous, merci beaucoup, colonel Pierre Chaleur, d'avoir été avec nous. On a une pensée pour les centaines de sapeurs-pompiers qui sont mobilisés, évidemment, sur le terrain, et pour les élus locaux. Merci à vous, Stéphane Gady, maire de la commune de La Molle. Bon courage pour les heures qui viennent. Il est midi 58 sur Europe 1. Dans quelques secondes, un nouveau journal, le journal de 13h avec Élise Dangean. Et puis ce sera La France bouge sur Europe 1. Très bel après-midi.